France Bleu Loire-Océan, à votre service. Cathy Kerzéro, Julie Fior.
Environ 50 000 nouveaux cas chaque année en France pour cette maladie qui fait peur et au sujet de laquelle sont véhiculés pas mal de contre-vérités. La maladie de Lyme, c'est quoi? Quels sont les symptômes, les traitements?
Si vous avez des questions à poser, notre spécialiste Solène Patras-Delon, médecin coordonnateur du Centre de référence des maladies vectorielles liées au tic du Grand Ouest, est avec nous. On vous attend au 02 40 73 6000. On attend également vos témoignages si vous ou l'un de vos proches avez contracté cette maladie.
Solène Patras-Delon, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle,
merci
médecin, je vous en prie, médecin coordonnateur donc du centre de référence des maladies vectorielles liées au tic du Grand Ouest. Il y a 5 centres de ce type en France. Vous êtes basé à Rennes et vous couvrez donc tout le Grand Ouest. Centre de référence des maladies vectorielles liées au tic. Il sera question ce matin principalement de la maladie de Lyme, mais on comprend bien que tout ça, ça part d'une morsure, d'une piqûre de tique. C'est bien ça, hein ?
Effectivement, les tiques sont... il y a plusieurs espèces de tiques. Il y en a plus de 900 dans le monde et un certain nombre en France. Et certaines tiques, pas toutes, peuvent transmettre des maladies à l'homme au moment de leur piqûre.
Donc la maladie de Lyme, mais pas que.
Effectivement, donc la maladie de Lyme, c'est la maladie la plus fréquente transmise par les tiques dans l'hémisphère nord. Et il y a d'autres maladies infectieuses, donc qu'elles soient bactériennes, virales ou parasitaires, qui peuvent être transmises à l'occasion de ces piqûres. Leur répartition est différente dans le monde et toutes les maladies ne sont pas présentes à tous les endroits. Donc il y a par exemple l'encéphalite atique, qu'on retrouve notamment dans l'est de la France, en Allemagne, en Autriche, qui est transmise par la même tique que la borréliose de Lyme. Et il y a d'autres maladies, comme on en entend régulièrement parler, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui est transmise par une autre espèce de tique que la maladie de Lyme.
Et cette saison, hein, puisque si nous avons programmé cette émission, c'est parce que là, on reprend les températures remontent, on reprend les balades en forêt, et on sait qu'il peut y avoir actuellement des tiques. Vous avez même programmé, ça ce sera fin juin, du 27 mai au 2 juin, on en reparlera, toute une opération de sensibilisation qui s'appelle Tique et vous. Mais revenons sur cette maladie de Lyme, je l'ai dit, qui fait peur, 50 000 nouveaux cas chaque année en France. C'est quoi exactement?
Donc la maladie de Lyme, c'est une maladie bactérienne, donc qui est liée à une bactérie qu'on appelle Borrelia et qui se transmet par piqûre de tique. Donc la tique va faire un premier repas sanguin sur un petit animal, un mammifère qui va être contaminé, infecté par la Borrelia, va manger cette Borrelia et va pouvoir la garder en elle. Alors en Bretagne, par exemple, on a à peu près 10-15% des tiques qui sont infectées par la bactérie Borrelia, et à l'occasion d'un second repas sanguin, et parfois donc sur l'homme, elle peut retransmettre cette bactérie. Alors quand elle pique, la tique ne transmet pas systématiquement la bactérie. Hein. C'est de l'ordre de 5-10% des gens maximum qui vont développer une borréliose de Lyme. Et cette maladie de Lyme, donc, c'est une maladie infectieuse qui va se développer selon plusieurs stades si effectivement on la contracte.
D'accord. Le premier stade, ce qui pourrait être visible, parce que c'est pas visible dans tous les cas, mais le plus courant, c'est une sorte de grosse plaque rouge, c'est ça?
Donc tout à fait, la forme la plus commune de maladie de Lyme, c'est une tache que l'on appelle l'érythème migrant. Donc c'est une plaque rouge qui va s'étendre progressivement. Donc c'est migrant pas parce que ça bouge sur le corps, mais parce que ça va s'étendre progressivement à partir de son centre vers l'extérieur. Et donc cette plaque rouge peut atteindre des tailles très grandes, jusqu'à 30 cm, et s'étendre progressivement. Elle n'est pas toujours présente et parfois on peut ne pas s'en rendre compte parce que c'est une plaque qui est le plus souvent indolore, qui ne gratte pas et qui ne fait pas mal. Et donc parfois, si elle est dans le dos par exemple, elle pourrait passer inaperçue.
D'accord. Donc ça veut dire que la plaque, elle ne part pas forcément de la morsure de la tique?
Alors, classiquement, on dit que cette plaque, elle est centrée par la piqûre de tique. Cependant, quand on regarde les études, il y a un certain nombre de patients qui ne se rappellent pas avoir été piqués. Donc ils ne savent pas qu'ils ont été piqués au centre de cette plaque. Et il y a d'autres formes où il peut y avoir plusieurs érythèmes migrants en même temps. Et là, on sait que ce n'est pas centré par la piqûre de tique, mais qu'il y a eu une diffusion de la bactérie dans le corps qui est venue, si vous voulez, ensuite se repositionner à différents endroits de la peau. Et donc, on va avoir plusieurs taches qu'on appelle les érythèmes migrants multiples.
Est-ce que ça peut être confondu avec d'autres piqûres? Là, on rappelle, la tique, c'est un acarien, mais est-ce que ça peut être confondu avec d'autres piqûres d'insectes? Ou alors vraiment, cet érythème migrant, c'est peut-être que ça, que la tique?
Alors, l'érythème migrant, dans sa forme de plus de 5 cm qui se propage, enfin qui s'étend progressivement, c'est une forme typique de borreliose de Lyme. Ce qui est parfois difficile, c'est que en médecine, c'est jamais tout à fait comme dans les livres, et donc parfois c'est pas tout à fait cette forme-là, ou bien on la voit tout au début et on n'a pas encore eu le temps de la voir grandir progressivement, et donc c'est là où on peut se poser la question d'autres diagnostics.
Ouais, comme un champignon de la peau en fait.
Par exemple, certaines dermatophyties, certains champignons peuvent ressembler. On a aussi d'autres manifestations qui sont des manifestations dermatologiques pures, inflammatoires, qui peuvent ressembler. Et c'est vraiment l'association d'une piqûre de tique ou au moins d'un contexte évocateur, c'est-à-dire il y a peu de temps, je suis allée me promener en forêt, j'étais dans une zone à risque, et ensuite de cette tache qui s'étend, qui fait le diagnostic. Et c'est aussi pour ça que parfois on dit aux gens, prenez-la en photo et puis on va revoir dans 48-72 heures. Parce que finalement, si la lésion, elle disparaît en 48 heures, c'est que c'est pas un érythème migrant, c'est peut-être une réaction à la piqûre, tout simplement. On peut avoir des petites réactions inflammatoires quand on s'est fait piquer, que ce soit par un acarien ou par un insecte. Et puis parfois, si au bout de 48 heures, ça disparaît, c'était que c'était pas ça.
D'accord. Et on va accueillir Sandrine qui nous appelle de Montrevaux. Bonjour Sandrine.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai été diagnostiquée, j'ai été piquée il y a à peu près un an à une piqûre de tique. Et en fin de compte, on l'a su très tardivement. Je l'ai su donc la semaine dernière, en fin de compte, donc ça va bientôt faire un an, que c'était une morsure de tique. Et donc, si vous voulez, j'ai un taux très très élevé au niveau de ma prise de sang liée à cette maladie-là. Et je voulais savoir si, j'ai des antibiotiques actuellement, et je voulais savoir si on pouvait en guérir.
Question donc que nous on pose au docteur Solène Patrat-Delon.
Bonjour madame, merci effectivement pour cette question. Donc je relève deux choses. Effectivement, votre sérologie, vous dites j'ai un taux très, très élevé. Donc oui. On fait un test dans le sang qui est la recherche d'anticorps. Le fait qu'il y ait des anticorps, ça montre qu'on a déjà été en contact avec cette bactérie-là. On n'a pas d'éléments pour dire que si le taux est très élevé, la maladie est plus grave. Ça va juste montrer que votre corps, il a fait des anticorps et qu'il l'a rencontré il y a un certain temps. Après, en fonction des manifestations, donc le traitement, c'est bien sûr les antibiotiques. La durée varie en fonction des manifestations et de la durée d'évolution de la borréliose. C'est une maladie qui guérit. Il peut y avoir parfois des séquelles ou des manifestations post-infectieuses qui persistent et qui vont diminuer avec le temps, mais ça reste une maladie pour laquelle le pronostic est très bon.
D'accord, ok.
Ça vous rassure un peu, Sandrine ?
Oui, tout à fait. Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, tout à fait. Alors que c'est vrai que on est toujours un peu inquiet, étant donné que j'ai fait pas mal de tests et en fin de compte, au bout d'un an, on s'aperçoit qu'en fin de compte, j'ai cette maladie-là. Donc on se dit avec les antibiotiques, est-ce que je vais pouvoir guérir, quoi ?
Ouais. Mais ce que j'entends aussi, Sandrine, vous allez peut-être le confirmer, docteur, c'est que finalement un an, c'est assez court pour avoir diagnostiqué. On disait tout à l'heure que ça pouvait être très très long.
Ouais, bah oui, mais c'est vrai que nous, quand on sait pas ce qu'on a, pour nous, un an.
Ah bah oui, j'imagine donc, que pour, dans votre position, Sandrine, un an, ça doit être très très long. J'en conviens.
D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour ce retour d'information.
Merci Sandrine.
Bonne journée à vous.
Et on est content de vous avoir rassuré. C'est vrai parce que docteur Solène Patrat-Delon, on a évoqué, la première phase de cette maladie qui peut être bénigne. Et puis, c'est quand même 50 000 cas par an. Et puis, il y a les complications. Voilà. Et là, ça nécessite, je crois, 800 hospitalisations par an, avec là des symptômes qui sont plus sévères.
Donc effectivement, la forme cutanée dont on vient de parler, elle est relativement bénigne. Alors, c'est vrai que là, on espère un diagnostic beaucoup plus rapide que le diagnostic que l'on vient de nous amener. Pour les formes compliquées, donc ce sont des formes de dissémination, il y a des formes neurologiques où en fait la bactérie peut atteindre les méninges, donc donner des méningites ou les nerfs essentiellement, et ça peut donner parfois des paralysies faciales, des radiculites, donc c'est une racine nerveuse qui va être atteinte, toutes les racines nerveuses peuvent l'être, c'est par exemple une sorte de sciatique qui est un peu bizarre, elle est très douloureuse, surtout la nuit, et en période notamment de circulation de tique. Et puis il y a des formes articulaires où on va avoir une articulation qui gonfle, la plupart du temps c'est le genou qui gonfle très fort, et c'est douloureux, et ça peut mettre un peu plus de temps à être diagnostiqué, parce qu'il faut faire des examens supplémentaires, parfois une ponction lombaire, parfois une ponction articulaire, et puis vu que ça peut être ces formes-là ne sont pas typiques d'une borréliose de Lyme, eh ben, il faut envisager d'autres diagnostics pour faire le bon diagnostic et apporter le bon traitement.
Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que ces symptômes-là, ils peuvent ressembler à des symptômes de d'autres maladies, donc le diagnostic est difficile à poser. Alors, je crois qu'on a le cas, Julie, sur...
C'est Aurore qui nous écrit sur Messenger et nous explique que ça a été très long pour elle de faire diagnostiquer sa maladie, même avec des analyses positives, nous écrit-elle. Elle a aussi des symptômes neurologiques. Elle se sent un petit peu délaissée par le corps médical. Elle dit qu'elle fait partie de groupes, justement, de personnes atteintes de cette maladie et que beaucoup de personnes restent en errance, en fait, finalement. Est-ce que vous confirmez ça, Solène Patras-Delon, que parfois c'est difficile aussi pour les patients, effectivement ?
Effectivement, on a un certain nombre de patients. La plupart des patients qui viennent consulter en centre de compétences ou centre de référence présentent des symptômes pour lesquels une borréliose de Lyme est suspectée. C'est des patients qui ont un grand parcours médical, souvent de l'errance, un vécu parfois difficile avec le système de soins. Et quand on les reçoit, l'idée, c'est justement de faire la part de ces symptômes. Certains symptômes vont être typiques, certains ne vont pas l'être. Et il y a aussi beaucoup de symptômes qui vont être de l'ordre de ces symptômes fonctionnels, de type fatigue, douleur diffuse, brouillard mental. Et ça, c'est partagé par beaucoup de maladies. Donc notre rôle, c'est de faire le point. C'est souvent des consultations longues d'environ une heure et demie, on fait la synthèse des examens qui ont été faits, on refait d'autres examens si c'est nécessaire, on en rediscute avec nos collègues, neurologues, rhumatologues, pour faire la part des choses, savoir ce qui revient à une borréliose de Lyme ou pas, ce qui revient aux séquelles ou à un syndrome post-infectieux, c'est-à-dire après traitement, on garde des symptômes, ou bien ce qui revient à un autre diagnostic, parce qu'on n'a pas toujours finalement une borréliose de Lyme, même si on a des symptômes qui pourraient l'évoquer au départ. Et donc ces consultations, c'est vraiment pour essayer de faire le point, proposer un diagnostic et surtout une prise en charge la plus adaptée possible pour améliorer la qualité de vie et la santé des patients.
Voilà, et des consultations donc qui sont effectuées dans 5 centres de soins donc en France, dont celui de Rennes, que vous coordonnez, Solène Patras-Delon. On rappelle que pour accéder à ce centre, c'est après avoir consulté son généraliste qui, lui va donner d'abord les antibiotiques et après, il cale un rendez-vous dans l'un de ces centres. Dernier volet de cette émission, votre service, les spécialistes consacrés à la maladie de Lyme, entre autres, avec Solène Patras-Delon, donc médecin coordonnateur du centre de référence des maladies vectorielles liées au tic du Grand Ouest. J'ai dit qu'il y avait 5 centres de ce type en France. Docteur Patras-Delon, vous précisiez qu'il y a aussi des centres de proximité.
Tout à fait, il y a des centres de compétences qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français pour que les gens n'aient pas justement à faire des kilomètres pour venir voir un spécialiste. Et donc, on peut trouver un centre de compétences beaucoup plus proche de chez soi.
Donc, alors,
on peut tout à fait retrouver tous ces centres sur le site du CRMVT pour que ce soit plus facile.
Et on accueille tout de suite Jacqueline Desnay. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour.
Bienvenue,
bonjour
Jacqueline.
Dites-nous.
Alors moi, j'ai été très bien suivie parce que j'avais eu cette piqûre de tic il y a 30 ans dans une forêt de Longines, mais je m'étais pas inquiétée à ce moment-là. Et quand on m'a fait, j'ai commencé à avoir des douleurs aux doigts de pied, des fourmillements et tout, et on m'a suivi un peu au départ faire des analyses de sang, et c'est là qu'on s'est rendu compte que j'avais des restes de maladie de Lyme.
D'accord.
Alors j'ai vu un épidémiologiste qui a été très sympa à La Roche-sur-Yon et tout. Ils ont fait toutes les recherches possibles. Maintenant j'ai un genou qui gonfle. Bon, on pense que c'est un peu de l'arthrose, mais moi j'ai l'impression que c'est bien des fourmillements qui ont gagné. J'ai les chevilles très enflées, le genou très enflé, et j'ai vraiment des difficultés à marcher. Et toutes les analyses disent bien qu'il y a un reste de maladie de Lyme.
Et donc, docteur Patras-Delon, il peut subsister comme ça des restes de maladies ?
Alors, en fait, il faut différencier deux choses. Il y a les symptômes qui peuvent ne pas complètement récupérer après un traitement, surtout s'ils ont évolué depuis longtemps. Et quand les nerfs ont été abîmés, parfois, il reste des séquelles. Et on va pas... Ça ne récupère pas complètement. Après, la bactérie, elle est détruite. Donc, si l'antibiothérapie a été bien menée, et donc, il n'y aura pas de nouvelles atteintes. Et par contre, on différencie aussi ce qu'on trouve toujours dans le sang. En fait, la sérologie, elle restera positive pendant des années, voire toute la vie, une fois qu'on a contracté la maladie de Lyme, et c'est juste le témoin d'un contact avec la bactérie. Donc suivre la prise de sang n'a pas d'intérêt.
D'accord, voilà ce qu'on peut vous dire. Donc Jacqueline en Vendée à Aisnay. Côté chiffres, entre janvier 2017 et avril 2023, il y a plus de 72 000 piqûres de tiques qui ont été recensées en France. Alors, chez nous, Bretagne, Pays de la Loire, on est plutôt bien lotis. Hein. Il y a quand même assez peu de... Il y a une majorité de cas plutôt à l'est ou dans le nord de la France, je crois. Hein.
Tout à fait, il y a un gradient est-ouest qui fait que nous, on a une incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an qui est bien moindre, au moins 4 fois moindre que dans l'est de la France.
Il n'empêche, et on va terminer par ça avec un gros message de prévention, c'est le message que vous donnerez à l'occasion de cette semaine de sensibilisation du 27 mai au 2 juin, TIC et vous. Message de prévention, là on va recommencer à aller jambes nues dans les forêts, dans les bois, ou voilà des balades en campagne. Qu'est-ce que vous teniez à nous dire, Solène Patras-Delon?
Donc effectivement, le meilleur moyen de ne pas contracter la maladie de Lyme, c'est de prévenir et les piqûres de tiques et de réagir rapidement si on a été piqué. Donc il faut connaître les endroits où elles vivent, ce qu'on appelle les écosystèmes. Donc les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, c'est essentiellement les forêts, les parcs, les prairies, tout ce qui va être zone naturelle. Et quand on va dans ces zones-là, soit on arrive à se couvrir les jambes, les bras avec des vêtements, on dit clair, de façon à pouvoir vite les repérer, pour pouvoir vite les chasser, soit on fait très attention quand on sort de cette zone à risque, quand on se déshabille, et ben, on regarde sur sa peau s'il n'y a pas des tiques, et puis on regarde aussi le lendemain, parce que si jamais elles ont piqué, parfois c'est tout tout petit, on ne les voit pas, et le lendemain elles ont bu un peu de sang, et donc elles sont un peu plus grosses, on va plus facilement les repérer.
D'accord.
Et si là... on repère une tique, ouais, on la retire, avec soit une petite pince fine, soit une pince à tique, c'est une sorte de petit crochet, on retire la tique, on désinfecte, et là, on surveille ensuite qu'il ne se passe rien, et on surveille pendant environ 30 jours, pour s'assurer qu'il n'y a pas de taches rouges justement qui apparaissent au niveau de notre corps, qu'on n'a pas de fièvre, de syndrome grippal, donc des courbatures, des douleurs articulaires, auquel cas il faudra aller voir son médecin traitant pour dire ben, j'ai été piqué, j'ai ces symptômes. Ça ne veut pas dire que c'est une maladie de Lyme ou que c'est lié à la tique, mais en tout cas, ça fait partie du raisonnement médical. À la suite.
Merci en tout cas pour ce message de prévention. Toutes les infos et d'autres infos sur le site crmvt.fr, également sur citic.fr. Merci à vous d'avoir été en direct sur France Bleu Loire-Océan.
Merci beaucoup.
Au revoir.
M'avoir invité.